Salut à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Point de vue, votre tour de l'actualité locale au pays. On se rend d'abord à Toronto aujourd'hui où Abdoul Sarr, un adolescent de 14 ans, a été poignardé à mort dans un restaurant du quartier de Beaches à Toronto le 5 juillet. La communauté réagit à cette violence insensée.
Toute l'équipe nous sommes mis à pleurer parce que non seulement nous connaissons la famille, la maman, ce petit Abdoul était un enfant sans problème, très poli. Il était toujours avec sa maman et son témoignage de la maman était tout le temps que heureusement que j'ai Abdoul, heureusement que je l'ai.
On admire les paysages de la Basse-Côte-Nord vus du ciel grâce à l'artiste Sébastien Saint-Jean.
D'avoir accès à ces gens-là qui, eux, l'ont vécu, tu sais, c'est pas des gens qui nous relatent, qui ont lu dans les livres d'histoire, là. C'est des gens qui ont vécu la pêche sur les îles à l'époque. C'est là, ils nous racontent leur jeunesse, ça fait que chaque fois que j'arrêtais quelque part, il y avait quelqu'un qui était là et qui m'aidait à aller voir les plus beaux endroits puis qui me racontait l'histoire de chacun de ces endroits-là. Ça rend chacun des lieux extraordinaires et uniques.
Et le Winnipeg Folk Festival connaît un succès retentissant malgré la fumée des feux de forêt. Un vibrant hommage est rendu à Bruce Coburn.
Comme Folk Fest, c'est tellement magique. C'est juste les vibes sont super. Puis tout le monde est souriant, tout le monde est gentil, tout le monde est chaleureux.
Ceci un peu plus encore à Point de vue, l'info locale pour vous partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour, merci d'être là. Un plaisir, comme toujours, de vous accueillir. Boris Chassagne au micro avec vous pour la prochaine demi-heure. On commence l'émission à Toronto où Abdoul Sarr, un adolescent de 14 ans, a été poignardé à mort dans un restaurant McDonald's du quartier de Beaches. Le 5 juillet dernier, la communauté réagit à cette violence inouïe qui laisse une famille dévastée, mais aussi toute une communauté en deuil. Franco-ontarien d'origine africaine, Abdoul Sarr était une figure bien connue de la passerelle IDE, un organisme qui accompagne depuis plus de 20 ans les jeunes des minorités visibles et les familles francophones immigrantes de la grande région de Toronto. Sa violente disparition a soulevé de vives réactions et émotions dans la population et bien sûr parmi ceux et celles qui l'ont côtoyé, notamment Léonie Chata, fondatrice et directrice générale de la passerelle IDE, qui connaissait personnellement d'ailleurs le jeune Abdoul Sarr et sa famille. Pour nous en parler, Annette Minka a pris le temps de la rencontrer.
Bonjour Madame Chata et merci d'avoir accepté de nous parler en ces circonstances difficiles.
Bonjour et merci de m'inviter.
Vous avez connu Abdoul Sarr et sa famille fréquentait votre centre communautaire. Comment avez-vous réagi en apprenant la nouvelle et que représentait ce jeune garçon pour vous et pour la passerelle?
Waouh, c'était déjà un choc parce que ce dimanche-là, j'ai deux fils, un d'ailleurs qui a le même âge que le petit Abdoul, qui m'appelle et me disant « Maman, il y a eu un incident, il y a quelqu'un qui s'est fait poignarder. » Je dis précipitamment comme maman « Prenez le premier Uber, quittez de là immédiatement. » Il faut déjà se dire que Afrofest, c'est quand même un moment important pour la reconnaissance et la présence des communautés africaines au Canada, à Toronto. Et c'est un moment historique où c'est l'occasion de retrouver parfois les familles ou les amis que nous n'avions pas vus depuis des années. Donc, c'est un endroit naturellement sain. Et donc, mes enfants arrivent à la maison, je suis tout à fait tranquille, mais toujours inquiète de savoir qu'est-ce qui a pu se passer. Et donc, le lendemain, j'arrive au bureau et c'est là d'où la grosse et mauvaise nouvelle m'accueille. Au fait, c'est le petit Abdoul qui s'est fait poignarder violemment, brutalement, dans un McDonald's. C'était un choc. Je dois dire que toute l'équipe nous sommes mis à pleurer parce que non seulement nous connaissons la famille, la maman, qui est fréquemment ici à la passerelle, mais ce petit Abdoul était un enfant sans problème, très poli, qui accompagnait sa maman au quotidien. Et d'ailleurs, quand il venait ici, il était toujours avec sa maman et son témoignage de la maman était tout le temps que heureusement que j'ai Abdoul, heureusement que je l'ai. Et pour nous, c'était, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et donc, nous sommes encore dans le choc, la famille est toujours dans le choc, la communauté, et il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, pourquoi cette grosse crise au sein de nos communautés. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système et c'est pas normal.
Justement, je vais rebondir là-dessus. Ce drame soulève beaucoup de questions sur la sécurité des jeunes, notamment issus de la communauté racialisée francophone. À votre avis, que révèle cette tragédie sur leur réalité ici à Toronto?
Au fait, un manquement flagrant des ressources adéquates pour ces communautés, pour ces jeunes noirs et racialisés. Il faut comprendre que le taux de pauvreté au sein des communautés noires, racialisées, n'est plus une question que nous devions relever aujourd'hui. Cette expérience démontre à quel point les gouvernements, les systèmes sont en train de faillir ou faillent à leur responsabilité de prendre en charge et de façon juste l'avenir de tous les jeunes francophones ou l'avenir des jeunes canadiens, incluant celle des jeunes noirs, des minorités et des minorités raciales. On ne peut pas expliquer comment, pendant l'été, beaucoup de familles noires ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans les camps par manque de moyens. Moi, je pense que il y a un sérieux problème dans le système. Ça, c'est un appel à une conversation beaucoup plus profonde. Et je pense que le décès de Abdoul devait re-questionner un peu les rôles que jouent les politiciens, les systèmes, et voir qu'est-ce qui peut être fait. Comment ça n'arrive plus? Comment nous ne perdons plus un autre Abdoul? Au fait, aujourd'hui, on va voir les jeunes, parce que ce sont les jeunes de 15 ans qui ont commis ce crime comme des jeunes délaissés, bandits. Mais au fait, pourquoi un jeune de 15 ans va arriver à ça? Il faut qu'on aille chercher derrière ces gestes le vrai vice sociétal qui existe actuellement au sein de nos communautés. C'est une chose mettre le blâme sur ces jeunes, mais c'est une autre chose de prendre en main les responsabilités et de trouver des opportunités équitables juste pour ces jeunes-là. Donc je perds mes mots parce que je suis encore dans le choc. On était à l'enterrement de d'Abdoul. Il y avait plus d'une centaine de membres de la communauté. C'est un peu un désespoir total. Et la maman est laissée à elle. Elle a perdu un fils. Elle va être dans des processus. Mais avant de, c'est pas le but de punir. Je sais pas. Je suis dépassée. Au fait, je perds mes mots parce que j'y parle. Je vois ces jeunes qui étaient tous calmes ici, gentils à la passerelle. Je vois une maman qui pleure, qui est dans un désespoir, et je vois une société, une génération de jeunes. Moi, j'ai deux jeunes garçons noirs et je les vois sans avenir et il faut faire quelque chose.
Oui, vous parliez tantôt de responsabilité. Quand un tel événement se produit, on se tourne en général vers les institutions, vers les écoles, vers les services sociaux et même vers les organismes communautaires. Quelle part de responsabilité portons-nous collectivement et qu'est-ce qu'on devrait faire pour changer les choses, pour protéger ces jeunes?
Au fait, nous portons toute cette responsabilité collective. Je prends par exemple, il y a beaucoup d'organismes à but non lucratif qui sont en manque de moyens financiers et qui sont prêts à offrir un service adéquat à ces jeunes-là. La problématique d'un jeune noir versus d'un jeune blanc n'est pas pareille. Ils n'ont pas les mêmes enjeux, les mêmes besoins. Donc, c'est d'adapter les approches et c'est d'adapter les investissements pour permettre d'outiller la communauté, d'outiller ces familles et d'outiller ces jeunes-là à rester hors des problèmes qui peuvent arriver à des drames aussi terribles comme celui d'Abdoul.
Je vous sens très très émue et au-delà de l'émotion, vous êtes aussi une femme d'action et active. Quelles initiatives concrètes, vous parliez de mettre des choses en place, quelles initiatives concrètes le gouvernement ou les gouvernements doivent mettre en place justement pour que la mort d'Abdoul Sarr ne soit pas vaine?
Il faut une panoplie de services, d'activités. Il faut offrir la possibilité aux familles, moyens ou pas moyens, d'avoir accès dans leurs différents quartiers au camp d'été. Il faut créer des centres d'activité pour ces jeunes francophones-là. Dans le plan de 10 ans de stratégie de la ville de Toronto, on a parlé qu'il manque des espaces francophones, des espaces où des centres où les jeunes peuvent venir s'amuser, jouer au bac. Il faut une étiquette réelle là-dessus. Je pense aussi qu'il faut développer des programmes de mentorat même pendant les années scolaires. Ces jeunes doivent avoir des opportunités. Peut-être il faut aussi leur donner l'occasion de voyager d'une région à une autre région et de faire des regroupements et des échanges inter-régions pour créer des momentum. Je pense que le jeune Abdul, dans son processus, vivant dans le quartier à Scarborough, des quartiers souvent à caractère avec des défis sociaux très prononcés. Ce jeune était dans un processus peut-être d'un espoir de vie, mais qui s'est retrouvé dans une embuscade terrible. Donc, on doit susciter encore ce jeune que c'est possible. Il faut des modèles, il faut des modèles positifs. Il faut créer ces momentum pour ces jeunes-là. Et ça, on doit le faire avec des investissements. Je pense que le Canada, c'est un pays extrêmement riche et ça dépend de la volonté des politiques pour vouloir dire on veut changer l'avenir de ces jeunes. Parce que la jeunesse francophone aujourd'hui, c'est la relève de demain. Et on n'a qu'à regarder les écoles francophones qui... C'est quoi la représentation? Au moins 75% viennent des communautés noires et racialisées. Et ça, qu'on le veuille ou pas, c'est la relève de demain. C'est ça la francophonie ontarienne de demain. Et donc, pour que nous soyons prêts, il faut investir dès maintenant pour mieux préparer ces jeunes-là.
Merci beaucoup, Léonie Tchata, d'avoir pris le temps de nous parler avec autant de sincérité. Nos pensées accompagnent bien évidemment la famille d'Abdul Sarr, ses proches également. Et merci pour tout.
Merci beaucoup, merci pour cette interview.
Cette entrevue a été réalisée par Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
Eh bien, on fuit maintenant la gravité pour prendre notre envol et admirer la Basse-Côte-Nord vue du ciel. Grâce à l'artiste Sébastien Saint-Jean, les paysages de la Basse-Côte-Nord, on vous en parle souvent ici, sont d'une beauté à couper le souffle. Mais rares sont ceux qui les ont vus du haut des airs. Un vide que Tourisme Côte-Nord et l'agence de voyage spécialisée Voyage Coste ont voulu combler en s'associant aux vidéastes, photographes et pilotes de drones, Sébastien Saint-Jean. De Bécomo, Sébastien Saint-Jean a sillonné la région pendant plusieurs semaines, traversé des villages et des étendues sauvages, son objectif étant de rendre justice aux paysages méconnus du territoire et de donner envie aux voyageurs de s'y aventurer à travers une série de vidéos. Mais une fois l'envie acquise, reste à régler la question de l'accueil touristique, du transport et de l'hébergement notamment. Ben, pour y arriver, Tourisme Côte-Nord se dit prête à travailler main dans la main avec la MRC du golfe du Saint-Laurent pour combler les manques en matière de transport et d'hébergement, tout en respectant le rythme et la réalité des communautés locales. Le reportage de Marie-Ève Dussablon.
Nous sommes présentement sur l'île d'Apas. Je suis à côté de ce qu'on appelle un cabestan. Ça servait à monter les bateaux. On en retrouvait un peu partout sur les îles où on s'en servait pour mettre les bateaux.
Les paysages en Basse-Côte-Nord sont spectaculaires, mais rares qu'on les voit en images et surtout en vol d'oiseaux. Tourisme Côte-Nord, avec l'agence de voyage Voyage Coste spécialisée dans la région, ont remédié à la situation en collaborant avec le vidéaste, photographe et pilote de drone Sébastien Saint-Jean, originaire de Bécomo. Il a parcouru plusieurs villages dans le but de rendre justice à nos paysages et d'inciter les gens à venir découvrir le territoire, souvent méconnu et difficile d'accès. Josiane Dufour, aux communications et relations médias à Tourisme Côte-Nord.
Je voulais mettre de l'avant les beautés du territoire. En tant qu'ATR, qu'Association touristique régionale, nous, notre but, bien entendu, c'est de pousser les visiteurs à se rendre toujours plus loin vers l'Est. Et souvent, les gens arrivent, par exemple, à Tadoussac et croient qu'ils ont vu une majorité de la Côte-Nord. Car la Côte-Nord, c'est beaucoup plus loin que ça. Là, donc, il y a beaucoup plus de choses à voir. Alors, notre but, c'est sûr, de faire rayonner la Basse-Côte-Nord, qui est en fait le plus à l'est, qui est la MRC la plus à l'est de la région. Et Sébastien Saint-Jean, qui est un natif de la région, il a parcouru la Côte-Nord au grand complet là, par des différents partenariats qu'on a eu avec lui. Et bien entendu, il est allé à quelques reprises aussi du côté de la Basse-Côte-Nord. Il avait déjà pris des magnifiques images, là, autant photos que vidéos. Donc, ça allait de soi là, qu'on allait travailler avec lui là, pour et Voyage Coche chercher quelqu'un justement qui connaissait bien la région. Donc, Sébastien Saint-Jean était l'homme tout désigné pour le faire.
Pour Sébastien Saint-Jean, qui a visité ces lieux pendant plusieurs semaines, c'est la rencontre des gens qui en fait aussi tout son charme.
Au niveau des paysages, tous les villages sont aussi beaux les uns que les autres. Là, c'est vraiment, Mountain Bay, c'est une vue vraiment incroyable là, de la manière que le village est installé à plan de montagne, tout ça. C'est vraiment, vraiment beau. Harrington Harbor, ben, c'est un cachet vraiment particulier aussi, le fait que c'est une île qui a eu un tournage d'un film que tout le monde connaît à une certaine époque. T'sais, ça amène un petit quelque chose. Il y a comme un aura autour de cette île-là aussi. Mais justement, l'accueil des gens, je me souviens comment j'ai été accueilli à chacun des endroits. T'sais, c'est sûr que si on parle de Tête-à-la-Baleine en particulier avec Monsieur Delmonger, on a vécu un moment vraiment extraordinaire, là, je veux dire, on a non seulement la visite de l'île de la Passe, mais tu sais, d'avoir accès à ces gens-là qui, eux, l'ont vécu, tu sais, c'est pas des gens qui nous relatent ce qu'ils ont lu dans les livres d'histoire, là, tu sais, c'est des gens qui ont vécu la pêche sur les îles à l'époque, c'est là, ils nous racontent leur jeunesse, ça fait que et c'est vraiment particulier, je pense à Carlin Nadeau aussi, avec qui j'ai passé un super beau moment, et bien d'autres, parce que je veux pas en oublier, mais chaque fois, j'arrêtais quelque part, il y avait quelqu'un qui était là, qui m'aidait à aller voir les plus beaux endroits, puis qui me racontait l'histoire de chacun de ces endroits-là. Fait que ça rend chacun des lieux extraordinaires et uniques, là.
Et la seule entrevue qu'on peut retrouver, c'est celle avec Gilles Monger, de Tête-à-la-Baleine, sur l'île de la Passe, où on découvre un pan de l'histoire de Joe Hébert.
C'était la maison où la fille de Joe Hébert a élevé sa famille, qu'elle a vécu, et que lui est venu passer les dernières étés de sa vie. Puis cette maison-là, elle était, l'ancienne maison était finie, était tombée. Puis à partir de photos et d'informations d'une de mes tantes, entre autres, qui était la petite fille de Léa, on a pu refaire.
Logistiquement, ce n'est pas non plus évident de venir capter toutes ces images. Bateaux, avions, hélicos, brouillard, manque d'hébergement, etc. Heureusement, ça s'est bien passé pour Sébastien. Mais comment s'y prendre avec les touristes s'ils commencent à être plus nombreux avec tous ces défis?
L'accès à la Basse-Côte-Nord est plus difficile hein, que les autres municipalités MRC. Une fois, il y a bien entendu Crégasca, qui est le fin de la route 138, là, que tout le monde connaît très bien, qui fait partie de la Basse-Côte-Nord. Par contre, une fois arrivé à Crégasca, pour aller voir, par exemple, les autres villages, les autres petits villages, même tu sais, la Romienne, Blanc-Sablon, Saint-Augustin, etc., ben, il faut y aller d'une autre façon, soit par voie aérienne ou par bateau. Maintenant, ce qui est fantastique, par contre, c'est que Tourisme Côte-Nord, en collaboration avec Destination Labrador, a mis au point un nouveau circuit qui s'appelle Expédition 51, qui permet maintenant d'aller visiter la Basse-Côte-Nord, entre autres Blanc-Sablon et la route panoramique de la Chicoutée, par la voie routière, mais en passant du côté du Labrador. Donc ça a vraiment créé un boom. Les gens qui croyaient que la Basse-Côte-Nord était inaccessible parce que, bon, elle ne se rendrait pas par la route, mais il fallait uniquement y aller par avion ou par bateau. Maintenant, c'est possible de s'y rendre par la route en passant du côté du Labrador. Donc ça, c'est vraiment formidable. Donc ça, c'est sûr que c'est un enjeu quand même encore, parce que le fait même de faire Expédition 51, ben, il faut trouver le moyen de revenir par la suite sur nos pas. Encore là, il y a le Bella des Gagnés qu'on connaît bien, là, qui dessert du côté de Blanc-Sablon et les différents villages. Mais bon, le Bella des Gagnés, comme on le sait, là, est très populaire présentement, donc c'est assez difficile d'avoir de la place. Sinon aussi, les gens, une fois arrivés là-bas, on se le cachera pas, il y a quand même un enjeu niveau hébergement, oui, pour recevoir les gens qui vont sur place. On voit une tendance des gens à voyager beaucoup en van, en campeur. Ça, c'est un gros plus, parce que du côté de la Basse-Côte-Nord, il y a quand même plusieurs stationnements qui sont disponibles pour passer plusieurs nuits, que ce soit à Blanc-Sablon ou même sur la route panoramique de la Chicoutée jusqu'à Vieux-Fort. Mais c'est sûr que l'hébergement vraiment en motel, hôtel, gîte, le besoin est là, clairement. Donc, c'est sûr que c'est un enjeu là, du côté de la MRC du Golfe du Saint-Laurent.
Et comme l'engouement se fait de plus en plus sentir, Tourisme Côte-Nord se dit prêt à mettre la main à la pâte avec la MRC du golfe du Saint-Laurent pour tenter de combler ses manques. Du côté de Sébastien, il sentait l'urgence d'y aller avant que le savoir disparaisse.
C'est un trésor caché. Il faut que les gens aillent là. Il faut que les gens aillent voir ça une fois dans leur vie. Puis je sentais une certaine urgence d'y aller parce que justement, les gens que j'ai rencontrés, que ce soit Garland Nadeau, que ce soit M. Gilles Monger ou d'autres, c'est des gens qui ont un certain âge quand même. Puis, tu sais, je veux dire, ils ont la richesse de leur vécu. Un jour, on va le perdre. Puis je me disais, mon souhait, c'était qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent y aller pendant que ces gens-là vivent encore là, puis qu'ils sont à même de leur raconter leur histoire, puis l'histoire de leur village, pour pas que ça devienne un genre un voyage touristique où tu as des jeunes qui ont appris par cœur l'histoire de la région, parce que il y a rien de mauvais là-dedans, mais c'est pas comme toucher à l'histoire avec quelqu'un qui l'a vécu. Oui. Fait que j'avais un peu ce sentiment d'urgence-là. Quand je suis revenu du voyage, je me souviens d'avoir parlé aux gens chez Tourisme Côte-Nord, puis leur dire, il faut que les gens y aillent le plus vite possible. C'est en ce moment, je trouve, la meilleure période pour pouvoir vivre cette expérience-là.
Ici Marie-Ève du Sablon pour l'IGL, la tête à la baleine.
Questions, commentaires ou suggestions, écrivez-nous radio@fréquenceinfo.ca.
Bon, on prend quelques instants ici pour vous lancer une invitation à écouter la série de 4 éléments audio que nous propose notre journaliste posté à Masterclass, cette réserve de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean au Québec, où 4 candidats et candidates s'affrontent pour être élus comme chef de la Première Nation des Pekakamulnuach. Les électeurs vont se prononcer le 1er août prochain. Jonathan Germain, Mélanie Boivin, Manuel Curtness et Florent Bégin tenteront de se faire élire. Alors, vous le devinez, Pierre Guille les a tous rencontrés. Vous retrouverez ces longs entretiens sur fréquenceinfo.ca. Et pour conclure cette édition de Point de vue, on va faire un tour du côté de la 50e édition du Festival Folk de Winnipeg. Ça se passait au parc provincial Birds Hill du 10 au 13 juillet 2025. L'événement réunit plusieurs milliers de festivaliers venus du Manitoba, mais aussi d'autres provinces canadiennes et des villes voisines américaines. Pas moins de 2000 bénévoles ont été mobilisés pour faire de ce festival un succès. Près de 80 artistes ou groupes musicaux s'y sont produits. Parmi eux, Jason Isbell, The 400 Unit, Peach Pit, The Cat Empire, Lake Street Dive, Mavis Staples, Fred Penner et Annie DiFranco. Mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas vu ce nom-là passer. Les organisateurs en ont profité pour rendre aussi hommage au chanteur canadien engagé, Bruce Coburn, aujourd'hui âgé de 80 ans et connu pour son grand succès « If I Had a Rocket Launcher »,« Lovers in a Dangerous Time » ou encore « If a Tree Falls in the Forest », par exemple, « Does Anybody Here ?» Ça vous rappelle quelque chose? Ben, James Olivier était sur place pour nous rafraîchir la mémoire. Il nous a ramené ce qui suit.
Ce festival de musique folklorique présente non seulement une variété d'artistes et de musique du monde entier, mais aussi des artistes locaux. Parmi ces artistes, on retrouve la chanteuse québécoise Mia Kelly.
C'est tellement une expérience excitante, c'est un peu overwhelming. Il y a tellement de personnes, mais c'est tellement un environnement magique. Il y a tellement d'amis ici présents aujourd'hui, donc c'est vraiment juste hâte de monter sur scène. J'ai hâte de voir mes amis performer, puis de partager toute la fin de semaine avec des gens que j'adore.
Mia Kelly considère sa participation à cette 50e édition de Winnipeg Folk Fest comme une nouvelle opportunité, une belle vitrine qui lui permet de découvrir d'autres artistes et de partager ses expériences avec le public.
Les inspirations sont tellement nombreuses. Des fois, c'est mes propres expériences vécues. Des fois, c'est des histoires que je raconte de personnes que j'ai rencontrées en voyageant ou sur la route. Des fois, c'est des scénarios un peu inventés, mais il y a toujours une histoire, il y a toujours une émotion très forte.
Auteure, compositrice, interprète, basée à Gatineau, Mia Kelly présente au public un style musical varié.
C'est du folk alternatif, mélangé avec un peu de blues, un peu de rock. Mais c'est en anglais, c'est en français, c'est doux, c'est entraînant. Donc, il y a beaucoup de variété dans mon set.
Le Festival folklorique de Winnipeg, qui a mobilisé cette année une panoplie d'artistes, a proposé au public une grande variété de concerts et mobilisé quelques 2000 bénévoles. Fidèle à cet événement musical estival, Karine a décidé depuis 2 ans de faire du bénévolat au festival.
Tout le monde qui est bénévole doit s'engager pour toute la fin de semaine. Donc, tu as un comme quart d'heure à chaque jour, mais ils sont assez courts. C'est juste comme des 3-4 heures. De cette manière-là, tu es là, tu fais un quart d'heure comme 3-4 heures à chaque jour, puis là, tu as le résultat d'aller vraiment comme explorer et faire ce que tu veux. Puis ça te donne comme une passe gratuite. Puis tu nourris. C'est vraiment comme. Ils traitent super bien leurs bénévoles, puis c'est vraiment comme une belle expérience. Spécialement que c'est des chiffres dans ma cour que tu peux vraiment profiter du festival.
Un engagement qu'elle partage avec d'autres passionnés.
Oh, c'est super le fun. Puis comme Folk Fest, c'est tellement magique. C'est juste les vibes sont super. Puis tout le monde est souriant, tout le monde est gentil, tout le monde est chaleureux. Puis c'est vraiment, alors qu'en tant que bartender, comme c'est vraiment une des... J'ai bartender à beaucoup de différentes places, puis c'est une des places que je préfère le faire, juste parce que tout le monde est tellement content puis heureux d'être là. Alors ça rend la job comme amusante puis plus facile.
Musicien de son état, Daniel Girard est lui aussi un passionné de ce festival.
J'ai vraiment aimé Fred Penner. Fred Penner, c'était un idole de jeunesse pour moi. J'ai suivi Fred's Place depuis que j'étais très jeune. Puis comme adulte, j'ai vu à date 4 de ses spectacles adultes à Fred Penner. Aussi hier soir, Alison Russell était superbe. Il y a de la musique pour tout le monde. C'est pas juste du folk. Il y a du blues, il y a du jazz, il y a du rock, il y a du traditionnel. Il y a quelque chose pour tout le monde. Il y a de l'électronique même en soirée.
Lancé par Mitch Podolak, Colin Gorey et Ava Kobrinsky en 1974 pour célébrer le centenaire de Winnipeg, ce festival est devenu avec le temps un rendez-vous incontournable. Pour cette 50e édition, les organisateurs ont lancé au début du mois de juin le livre Founding Folk, An Oral History of the Winnipeg Folk Festival, écrit par Kevin Nickel. Le film When We Became Folk Fest, réalisé par Kevin et le regretté Dave Barber, a été présenté peu de temps après à la Cinémathèque Dave Barber, également à Winnipeg. Ses œuvres retracent la croissance phénoménale du festival depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Pour clôturer cette 50e édition, un hommage a été rendu à l'auteur, compositeur, interprète canadien Bruce Cockburn, qui a écrit plus de 350 chansons et sorti une trentaine d'albums. Cette légende de la musique a joué devant les foules du Festival Folk de Winnipeg pendant 5 décennies. All the diamonds in this world that need it. Olivier, IJL, Winnipeg.
Alors voilà qui conclut cette autre édition de Point de vue. Merci à nos journalistes que sont Pierre Gill, James Olivier, Marie-Ève Dussablon et Annette Minka, rédactrice nationale Julia Chénu, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Point de vue vous est présenté par le Fonds canadien de la radio communautaire et l'initiative de journalisme local. Merci à vous, auditeurs, auditrices, de nous avoir tenus compagnie et à votre radio ici présente de nous donner une voix. Aux musiciens et musiciennes qui nous accompagnent tout au long de cette émission, telle que Savannah qui nous offre Acid Beach, celle qui conclut l'émission. Profitez bien du temps qui passe. À la semaine prochaine. Ciao.
Écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca, radio@frequenceinfo.ca.